Vous écoutez le podcast de Bob vous dit toute la vérité.
Parmi vous, certains pensent peut-être avoir des facultés médiumniques. Eh bien, ce soir, je propose d'en être sûr et surtout de savoir les comprendre, les analyser avec Christine Kahl. Bonsoir Christine.
Oui, bonsoir.
Vous vous décrivez comme une personne qui a vu des dons de clairvoyance et de médiumnité se développer. Vous êtes en train d'écrire votre premier livre. Votre site, c'est christinekahl5d.com. Alors, on mettra là encore une fois le lien parce qu'il y a des cas, des machins, des trucs partout. Donc, c'est pas simple pour ceux qui n'ont pas de stylo. Mais quoi qu'il en soit, donc vous allez forcément intéresser les auditeurs parce que force est de constater que de nombreuses personnes qui nous écoutent nous disent « Moi, je ressens des choses, etc. » Mais on ne sait pas véritablement expliquer ce que l'on ressent. Comment on sait que ce sont des capacités médiumniques et comment on sait que ça n'en est pas ?
Alors, tout simplement, mon témoignage de vie est un peu atypique. Donc, étant donné que j'étais quelqu'un de très, les pieds dans le sol, donc étant expert comptable, donc par ailleurs, un basculement se fait donc à 93 avec effectivement, subitement, la vision de personnes qui sont dans un autre espace-temps parce que tout simplement, je vois bien qu'ils ne sont pas en chair et en os, si je puis dire, et puis qu'ils sont habillés d'une autre époque. Donc voilà. Et c'est là qu'on s'aperçoit effectivement qu'on ne rêve pas parce que dans le quotidien, dans la vie personnelle quotidienne, deux jours, si je puis dire, donc tout va bien. Ouais. Mais c'est que ça se diffuse ensuite, donc on s'aperçoit de ces phénomènes plutôt quand on est dans des lieux particuliers, du style vieille maison, ou donc des antiquaires, des choses comme ça, en tout cas des vieux objets, ou bien donc dans la nature parfois, et que là, effectivement, on s'aperçoit que ces êtres qui apparaissent ne sont pas densifiés comme nous. Voilà, pour répondre à votre question globalement.
D'accord.
Maintenant, après, il ne faut pas se sentir non plus déstabilisé par tout ça au niveau psychologique, parce qu'effectivement, quand ça arrive, donc, et pour mon cas, par exemple, ça a été suite à des chocs émotionnels, une espèce de voile qui s'est déchirée, et qui m'a donné l'accès subitement, comme ça, à ces visions.
D'accord.
Alors, un travail personnel important. Donc, pour savoir d'où vient l'information, est-ce que c'est quelque chose que l'on perçoit de l'intérieur, est-ce que c'est quelque chose que l'on perçoit de l'extérieur, des hallucinations, éventuellement, mais bien quelque chose qui se passe à l'extérieur, et tout ça, c'est un travail personnel, donc d'apprendre, à savoir comment on fonctionne soi-même, et connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers, est un adage qui me paraît très important, parce qu'avant de prétendre quoi que ce soit, il faut, à mon avis, être équilibré intérieurement, avoir fait un petit peu de ménage, aussi, sur toutes ces souffrances, ces blessures, donc qu'est-ce qu'on vit au moment aussi également, et puis après donc essayer de voir comment utiliser ces aptitudes-là, parce qu'il s'agit souvent de réveils, de dons, avec parfois des dons, des petits héritages familiales, ou bien d'autres incarnations si on y croit, et puis chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais voilà, il y a quelque chose qui se passe à un moment donné, et une fois que ça s'est réveillé, qu'est-ce qu'on en fait ? Ça, c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans ce domaine-là parce que les énergies de notre planète, mais aussi de notre galaxie, les scientifiques commencent à parler de ça, sont en train de se modifier et que personnellement, on voit bien qu'il y a de plus en plus de gens qui perçoivent des choses. À l'extérieur, en particulier les thérapeutes, que les personnes qui font des soins énergétiques sont de plus en plus subtiles, de plus en plus perceptibles à des phénomènes extérieurs. Donc, et je crois qu'il y a une règle majeure, c'est surtout, on va percevoir en fait ce avec quoi on est en résonance, en fréquence intérieure. Un peu quand on cherche justement une chaîne de radio, on va chercher une fréquence. Et là, c'est la même chose. Donc, en fonction de sa fréquence intérieure et personnelle, on va toucher une fréquence extérieure. D'où l'importance d'un travail sur soi, d'une certaine sérénité, peut-être un petit peu de méditation, des choses comme ça, de façon à être en paix avec soi-même, afin de pouvoir ensuite donc capter des choses extérieures et trouver aussi la paix, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont capter des esprits, des choses comme ça, ce qu'on appelle le spiritisme. Mais là, on est dans un autre domaine, c'est-à-dire qu'on va en être parfois victime. Et il m'est arrivé dans ma vie de croiser des gens comme ça.
Ça vous a fait peur au début ou pas ?
Pas du tout, parce que la première fois que ça m'est arrivé, c'était au volant de ma voiture et j'ai vu apparaître le visage de ma grand-mère décédée 10 ans plus tôt dans le pare-brise de ma voiture et qui m'a sauvé d'un accident.
Ah, la nouvelle technologie, c'est incroyable, donc.
On pourrait dire un hologramme aujourd'hui.
Ouais, c'est ça, ouais.
Mais en fait, c'est pas ça du tout. Et donc, ça a commencé comme ça. Donc, comme j'avais beaucoup de liens avec ma grand-mère, ça m'a pas du tout effrayée. Pour la petite anecdote, j'étais avec un couple d'amis, donc au volant de ma voiture à Toulouse. Et puis, le mari de ma copine faisait des rallyes, en fait, de la course de voiture. Quelqu'un de complètement athée et qui, quand j'ai arrêté mon véhicule, me dit « c'est la main de Dieu qui nous a sauvés ». Et je n'ai rien vu. Je n'ai vu que le visage de ma grand-mère et j'ai donné un coup de volant qui a permis d'éviter une voiture de quelqu'un qui était sous en face au volant. Voilà. Ensuite, deuxième expérience, mais il y en a beaucoup, je peux vous en raconter plein. Mmh. Donc, deuxième expérience, je vais chez un client, en fait, je vous rappelle, j'étais expert rentable, et dans une maison ancienne, hein, un petit château. Et au moment où ce monsieur sort son bail, donc, son acte d'achat de propriété même, il me dit, vous savez, ici, je suis propriétaire, mais je me sens accepté. Et à ce moment-là, je lève les yeux et je vois dans la pièce des êtres habillés avec des chapeaux melons, des tenues anciennes, comme dans les années 20, 30, et des visages très austère. Et je comprenais la phrase qu'il me disait. Je lui ai juste dit, monsieur, ce sera trop cher pour vous. Et je suis partie à toute vitesse.
Ah oui.
Donc, parce que, voilà, je voyais ces êtres vraiment très austères. Et donc, au fil après de magie, j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient donc vécu soit des NDE, soit effectivement rencontré des médiums, soit avoir vécu eux-mêmes des connexions avec l'astral, c'est-à-dire des entités, qui m'ont permis aussi de comprendre tout cela et progressivement moi-même d'en faire les expériences.
En tout cas, ce soir, nous parlons avec Christine Kahl de vos facultés médiumniques. On va bien sûr essayer de comprendre comment on peut les analyser quand ça nous tombe dessus. Qu'est-ce qui se passe?
Si on vous demande ce que vous écoutez le soir entre 21h et minuit,
répondez ado.
Et Bob vous dit toute la vérité.
Christine, donc, je le disais, beaucoup de gens nous disent, voilà, je ressens des choses. Beaucoup d'auditeurs sur la page Facebook nous disent, je sens ça, je sens ça. Comment on sait qu'on est médium?
Mais comme je vous disais, parce que soit on développe une clairvoyance, c'est-à-dire qu'on va voir des choses donc qui ne sont pas dans notre dimension, je dirais. Alors qu'est-ce que c'est que la dimension? Nous appréhendons notre environnement, notre entourage, notre vécu par les sens, les cinq sens. Donc le toucher, l'odorat, l'ouïe, etc. Voilà. Et donc la clairvoyance va être une espèce de sixième sens, c'est-à-dire qu'on va percevoir. C'est pas tellement avec les yeux physiques, je dirais, c'est plus avec la vue et l'ouïe intérieure, du cœur, qu'on va commencer à voir qu'il se passe quelque chose, mais qui n'est pas dans notre monde, tangible, physique, avec les mêmes couleurs, avec les mêmes perceptions. Et là, effectivement, on accède à une autre dimension, puisque, évidemment, et les scientifiques, par exemple, le disent aussi, on n'a pas de vie sur Mars ou sur Vénus. Non, on n'a pas de vie possible en 3D, en troisième dimension, sur Mars et Vénus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une vie en cinquième ou en sixième dimension. Donc, on apprend les choses avec notre connaissance et notre conscience actuelle, ainsi que nos sens. Mais pour les personnes qui, subitement, vont développer un sixième sens, et souvent, encore une fois, ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe, donc, eh bien, il va y avoir l'appréhension, la connexion à un autre monde. Un monde parallèle qui, en fait, est là, mais qu'on ne voit pas pour l'instant. Et je dirais qu'il vaut mieux pas, parce que ce n'est pas toujours agréable à voir dans un premier temps, en tout cas.
Alors, vous, ce qui est assez rigolo, c'est qu'un jour, dans une salle d'attente de médecin, vous avez trouvé un magazine qui expliquait qu'un choc émotionnel pouvait débloquer des dons.
Oui. Donc, effectivement, j'ai trouvé ça des années plus tard, et ça m'a beaucoup rassurée. Un magazine tout à fait anodin, pour femmes, je dirais. Et quand j'ai lu cela, ça m'a beaucoup rassurée, donc, parce qu'il y avait déjà un parcours de plusieurs années auparavant avec ça, donc, où, effectivement, ça correspondait à mon expérience. Puisque, donc, en 93, donc, dans une semaine, je dirais, j'ai vécu plusieurs expériences avec un émotionnel intensif. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai vécu comme un voile qui se déchirait physiquement à l'intérieur de moi. Alors, ça peut s'expliquer après quand on commence à comprendre tout cela. C'est le corps astral, en fait, qui ôte un voile et qui permet comme ça l'accès à ce monde astral dans lequel vivent donc les personnes disparues. Donc, puisque nous croyons que quand nous mourons, donc il ne se passe rien, j'ose dire par plusieurs expériences et rencontres que la conscience continue. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les scientifiques, à travers les NDE ou autres, commencent à parler de ça sérieusement. Beaucoup d'ouvrages ou de scientifiques ou beaucoup de médecins qui font des NDE. Bien sûr, la crédibilité d'un médecin va être peut-être un peu plus importante que le commun des mortels. Et donc, on commence scientifiquement à démontrer, je fais des conférences là-dessus, que la conscience continue au-delà du cerveau et au-delà de la mort.
Ouais, c'est donc, ça, c'est les scientifiques l'ont accepté et l'ont compris. Alors, ils savent pas où elle est, cette conscience, mais en tout cas, ils savent bien qu'elle est pas dans notre cerveau. Vous avez vécu quand même un enchaînement de causes, C'est-à-dire que, et vous avez réussi à les comprendre, semble-t-il, la même semaine, votre Marie vous annonçait qu'il partait vivre avec quelqu'un, vous étiez en train de bosser, qu'est-ce qui s'est passé en fait?
Ce qui s'est passé, c'est que la première semaine de 1993, mon mari m'annonce qu'il part vivre avec un homme, je suis en train aussi de m'associer, donc de changer au niveau de mon organisation professionnelle. La même semaine, en plus, je vis une hémorragie importante, donc qui va durer plusieurs jours, et je suis nommée jurée en cour d'assises. Moi qui ne gagne jamais la moindre tombola, et pour être jurée en cour d'assises, croyez-moi, il faut être tiré au sort le matin au tribunal plusieurs fois, et c'est un devoir civique, pardon, on n'a pas le droit de refuser. Donc j'arrive le matin donc au tribunal où on doit juger donc des cas d'inceste, des cas de meurtre. Et en même temps, je rentre le soir chez moi où mon mari, voilà, on est en plein drame familial, je dirais. Je suis aussi en train de m'associer. Donc il se passe une série de chocs émotionnels intenses par le fait que ça se passe pratiquement les mêmes jours. Hein. Et c'est là que, comme je le disais, ce voile se déchire en moi. Je vis physiquement quelque chose que je n'explique pas. Hein. Beaucoup de gens ont effectivement des problèmes émotionnels. Je ne suis pas la seule, bien sûr. Ouais. Mais chez moi, ça se révèle comme ça. Et donc, encore une fois, donc quelques jours après, se passe l'épisode dont je vous ai parlé avec ma grand-mère qui m'apparaît dans le pare-brise de ma voiture. Voilà. Alors, des personnes vont développer des dons à un moment donné, une créativité pour la peinture, des choses comme ça. Et puis pour moi, comme je vous dis, ça se passait avec la clairvoyance, la clairaudience. Alors, je vis ensuite toute une série de je me remets en question. Ce n'est pas que j'ai peur, mais je cherche à comprendre. À l'âge de 16 ans, déjà, j'avais dévoré énormément de livres sur la psychologie humaine, ce qui m'avait beaucoup aidé. Mais je rentre aussi dans des formes de thérapie diverses et variées pour comprendre ce qui se passe en moi. Et puis la vie fait que je rencontre des gens qui vont m'expliquer un petit peu, mais sans plus quand même. Et c'est plutôt un parcours autodidacte qui fait que je vais apprendre à gérer ça moi-même avec des techniques de connaissance de moi. D'où me viennent les informations, comment je les interprète à l'intérieur de moi. Et je suis aussi divers enseignements, des stages de perception extrasensorielle pour aller chercher de l'eau, par exemple, dans un champ. De la PNL, mais fait à l'époque par quelqu'un de spirituel qui peut permettre d'expliquer, justement, à travers ce qu'on appelle les submodalités, comment on perçoit les choses, à l'intérieur, à l'extérieur. Donc je suis aidée par un certain nombre de choses à ce niveau-là, mais j'avance, je dirais, un peu à vue, sachant que la journée, je suis expert comptable, j'ai une centaine de clients, j'ai 4 salariés, j'ai un bébé, par ailleurs, j'ai une vie normale, une vie normale.
Alors justement, on va parler de cette normalité et de cette paranormalité dans quelques instants. Christine Kahl est mon invitée jusqu'à 23h. Vous voulez réagir suite à tout ce que vous entendez? Il y a le Facebook, Bob, vous dites la vérité, le Twitter, Maudièse, Bob, vérité, ou encore, tout simplement, mon mail, contact@bob-toutelavérité.fr.
Si vous pensiez que c'était uniquement dans votre tête, préparez-vous à découvrir la vérité.
Tous les soirs, 21h minuit sur Ado, Bob vous dit toute la vérité.
Le seul et unique talk show consacré à la vérité sur des univers que l'on a du mal à percevoir quand on n'a pas de faculté, mais aussi sur les complots d'État, les sociétés secrètes. Et tous les soirs entre 21h et minuit, nous sommes avec Christine Kahl pour évoquer l'interprétation des révélations médiumniques. Alors, vous disiez, Christine, que finalement vous avez été autodidacte, vous avez appris toute seule à appréhender ces facultés. L'auditrice ou l'auditeur qui vous écoute là et qui a de temps en temps des portes qui s'ouvrent sur un monde. Alors il peut en avoir peur, il peut tout de suite les maîtriser, ou quel est le process finalement?
Je dirais que le process, il est personnel, parce qu'on est dans une voie très subtile et donc difficile de décrire cela à des gens qui ne connaissent pas cela. Difficile d'en parler, je dirais, par exemple à des psychologues ou autres, parce que c'est toujours un peu compliqué, on va se faire traiter de schizophrène tout de suite. Ouais. C'est pour ça qu'il faut avoir quand même une vie, je dirais, de jour, si je puis dire, parce que ces phénomènes se passent plutôt la nuit. Une vie assez incarnée et puis constructive, équilibrée. Parce que sinon, on peut partir très vite, et c'est là le danger. Et dans les années qui arrivent, avec justement une subtilité au niveau de l'imbrication de ces dimensions, des énergies qui descendent sur la planète, il va falloir être très prudent. Une parenthèse à ce sujet, on voit de plus en plus de gens qui font qui tuent des personnes sous soi-disant la dictée de voix intérieures qui leur disaient de tuer des personnes ou autres. On voit ces meurtres dans des écoles, des choses comme ça. Ce sont des gens qui sont traversés effectivement par des énergies. On appelle ces gens donc des gens qui sont schizophrènes ou qui sont malades. Eh bien, ils sont parfois influencés effectivement par ce qu'on appelle des entités. Et ça, à mon sens, ça va risque de se développer. Alors, pour revenir à votre question, un parcours autodidacte, parce que comment faire pour parler de ça? Et à qui surtout? Personnellement, pour moi, comment ça se passait? Comme je vous le disais, des visions, des flashs, Et surtout, la nuit, en fait, quand je m'endormais, ce qui se passe, c'est ce que j'ai compris après, ouais. c'est que le corps astral se décale du corps physique. Alors, je parle un petit peu de technique, peut-être. Hein. Vous savez, on est comme des poupées russes. On a un corps physique de matière, mais on a aussi des corps subtils, que l'on ne voit pas à l'œil, bien sûr, qui sont autour de nous, des corps énergétiques. Et le corps astral, c'est le corps des désirs, le corps des émotions, surtout. Un corps qu'on ne sait pas trop maîtriser et qui, justement, quand on est touché émotionnellement, et nous sommes tous par ce que l'on vit au quotidien, hein, eh bien, va se décaler légèrement. Et c'est là que pour des personnes qui ont des aptitudes, on peut se retrouver donc en contact avec d'autres mondes parallèles. Donc c'est ce qui se passait pour moi la nuit et je me retrouvais dans des mondes différents. Un petit exemple que je prends souvent anecdotiquement, c'est le film Ghost ou le film Au-delà de nos rêves,
hein,
ou pour ceux qui ont vu Nos Solars. Voilà, ces films sont très expressifs de ce qui se passe de l'autre côté, je dirais.
Est-ce que c'est-à-dire que ça se passe vraiment comme dans les films?
Je dirais que ces films, je dirais Ghost à certains moments, ou bien Nos Solars surtout, hein, je sais pas si vous connaissez ce film de Chico Xavier.
Non, Nos Solars, c'est ça?
Nos Solars est donc un film qui a été réalisé à partir d'une série d'ouvrages écrit par donc Chico Xavier, un personnage très connu au Brésil, qui a retranscrit des informations de médium. Il était médium, donc à partir d'André Louis. André Louis était un médecin, donc après la guerre, qui a donné beaucoup d'informations donc concernant la vie après la mort. Et il faut savoir que Chico Xavier est quelqu'un qui a été reconnu par le gouvernement du Brésil comme ayant fait avancer donc ce pays sur un plan spirituel.
D'accord.
Donc là, dans ces livres, ou dans ces ouvrages, ou dans ce film, on peut trouver effectivement des images, et je rends hommage justement à ces réalisateurs, parce que ce n'est pas facile de traduire ces mondes. Et je trouve que ce film est bien fait concernant ce qui se passe de l'autre côté, tant dans le processus de la vie après la mort, ou donc le processus avant l'incarnation ou après l'incarnation.
Ouais.
Alors, mes propos peuvent vous choquer, mais je peux vous donner quelques anecdotes là-dessus, hein, donc qui... Personnellement, moi, quand j'étais plus jeune, je ne croyais pas à la vie après la mort, hein, donc ni au processus de réincarnation.
Ouais.
Et c'est la vie, en fait, qui m'a permis de rencontrer des gens et des expériences qui m'ont, je dirais, presque obligé à revenir sur mes positions.
Ouais.
Hein, donc, avec la vision de personnes que je ne connaissais pas, hein, et qui étaient décédées et qui se sont présentées à moi. Si vous me permettez, je vous raconter une anecdote.
Éventuellement,
pour, hein, voilà. Je m'en vais chez une amie boire un café un jour et sa nièce qui arrive des États-Unis est là pour enterrer son père. Ça se passait donc en France, dans le sud, hein, près de Toulouse. Donc voilà, je me retrouve donc chez cette personne. Et mon amie me dit, on va prendre un moment de silence si tu veux bien pour le père, avec grand plaisir. Et donc on prend 5 minutes de silence. Et là, j'assiste à une scène intérieure où je vois un homme en costume noir se lever, hein, donc énergétiquement de son corps physique, hein, donc et puis donc ensuite il retrouve une femme amaigrie avec les cheveux roux, toute petite,
ouais.
et je vois ces êtres s'embrasser comme s'ils se retrouvaient, mais je vois bien que tout ça est dans un autre univers. Et puis je vois une petite grand-mère aussi, donc habillée de noir, voilà. Alors ça me semblait être une belle scène de retrouvailles, vraiment.
Ouais.
Des choses comme ça, j'en avais vu que plusieurs fois. Donc, quand, je dirais, nous arrêtons la petite séance de silence,
ouais, ouais.
Mon ami me dit, mais est-ce que tu peux décrire ce que tu as vu? Alors, je ne connaissais pas du tout la nièce. Hein, elle débarquait, je dirais, des États-Unis, passez-moi l'expression.
Ouais.
Et je raconte cette scène. Elle me dit, mais vous pouvez me décrire mon père? Et je lui dis, écoutez, il est en costume noir. Bon, ça, je dirais, c'est assez classique quand on va se faire enterrer. Mais bon, je leur décris un grand homme avec les cheveux gris et sur le côté gauche. Donc, voilà. Elle me dit, mais écoutez, mais mon père est quand même grand avec les cheveux comme ça. Et puis, elle me dit ce qui m'intéresse. Elle me dit, vous pouvez me décrire la dame que vous avez vue, donc petite femme, donc toute menue avec des cheveux, hein, donc, sur le côté, cheveux courts, donc, une teinture, donc, à cajou. Elle me dit, mais c'est ma tante, c'est-à-dire donc la sœur de mon père qui est décédée il y a 3 ans d'un cancer. Voilà. Et elle me dit, la grand-mère, donc c'est ma grand-mère qui est morte il y a 10 ans.
Ah ouais.
Donc voilà. Et j'arrive, donc je ne connais rien de cette famille, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Moi, je vais boire le café chez une amie.
Ouais, ouais.
Donc, et voilà. Alors, des scènes comme ça, je peux en rencontrer beaucoup. Donc, c'est juste donc un exemple qui prouve peut-être qu'effectivement, mais enfin, chacun est libre de penser ce qu'il veut ensuite, hein, qu'il se passe bien quelque chose après la mort. Hein, donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on voit tout ça?
Ben oui.
Eh bien voilà. Hein, donc la grande question, c'est déjà peut-être de pas avoir peur. Donc parce que dans ces cas-là, donc dans le cas d'entité, c'est-à-dire une entité, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a quitté son corps physique.
Ouais.
Et là encore, pour expliquer par rapport à l'auditoire, hein, peut-être le film Ghost, je ne sais pas si vous vous rappelez,
ouais, bien sûr,
quand il est assassiné, hein, on voit bien son corps astral qui continue à œuvrer sur un autre plan. Hein, donc, et son corps physique, bien sûr, qui est étendu au sol, ensanglanté. Ce corps astral va, ce qu'on appelle la coquille astrale, va rester pendant quelque temps. Mm-hmm. Hein, donc, et dont, la façon dont on le perçoit, en tout cas pour moi, c'est exactement la réplique du corps physique, mais je dirais avec une couleur un peu plus terne. Hein, donc, voilà. Alors, quand est-ce qu'on peut voir des personnes comme ça? Mais quand les personnes sont donc décédées, et en particulier subitement, suite à un choc, par exemple donc dans un accident de voiture où l'âme est catapultée hors du corps suite à un choc frontal, par exemple, ou un choc violent, ça peut être le cas d'assassinat aussi, ouais. Bien sûr, ouais, ouais. Comme là c'est le cas pour ce film. Ouais. Et donc on a cette coquille astrale qui va rester pendant quelque temps. Et normalement ensuite, l'âme, je dirais, hein, donc l'esprit, la conscience, on y met les mots que l'on veut, va partir dans le plan qui correspond à sa vibration, à son évolution spirituelle, donc il va ensuite faire le point de sa vie, et puis préparer peut-être notre programme ensuite.
C'est-à-dire qu'en fait, quand on décède d'une façon brutale, le voyage après n'est pas le même, c'est-à-dire que en fait, le passage dans l'autre dimension n'est pas le même que lors d'une mort classique.
Il est toujours le même. C'est-à-dire que quand on décède, alors si vous voulez qu'on parle un peu du processus du décès, on peut prendre quelques minutes là-dessus.
Bien sûr.
Quand on décède, en fait, ce qui se passe, c'est contrairement à ce qui se passe toutes les nuits, par exemple, la nuit on rêve, hein, donc notre âme va se promener dans d'autres mondes aussi, mais on ne s'en rappelle pas. Hein, donc heureusement d'ailleurs. Voilà. Et certaines personnes qui font des voyages astraux, hein, comme c'est le cas pour moi, et je dis ça parce que ça peut servir aussi donc peut-être à des personnes, parce que là aussi ce genre de choses se développe. Ouais. Quelle est la différence entre le rêve et le voyage astral? Le rêve, en fait, on est dans un imaginaire, hein, donc et puis on se réveille le matin, voilà, on est arrivé, c'est positif, c'est négatif, etc. Le voyage astral a une consistance, c'est-à-dire qu'on va s'apercevoir qu'on a des sens. Hein, c'est-à-dire que dans le rêve, il est plus consistant. C'est comme si on était vraiment dans un autre monde. Hein, donc, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il se passe vraiment quelque chose de différent. Ce genre de choses arrive de plus en plus. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, on va être en relation avec la fréquence que l'on a intérieurement. C'est-à-dire, par exemple, pour une personne qui n'est pas bien, qui a tendance à avoir des addictions, hein, donc boissons, alcool, donc cigarettes, drogue, on va se retrouver dans ce qu'on appelle le bas astral, c'est-à-dire en connexion avec des êtres, disons, qui ne sont pas libérés de l'implantation terrestre parce qu'ils ont besoin de cette énergie, ils n'ont pas fait le deuil de ces désirs-là, de ces plaisirs, et s'accrochent encore à cela. On voit bien ça aussi dans nos solars.
Hein, oui, mais en même temps, Christine, ça peut paraître assez humain de s'accrocher à ça, parce que la vie est belle quand même.
Oui, certes, bien sûr. Mais là, encore une fois, et je prendrai encore une fois le film de Ghost, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le métro. Hein,
oui, bien sûr.
Voilà, en fait, quelqu'un qui s'est suicidé, hein, parce que là aussi, on est dans un cas particulier, et qui refuse, en fait, hein, ou une partie de lui n'accepte pas ce geste qu'il a fait. Ouais. Hein, donc, il y a beaucoup d'âmes en souffrance, comme ça, et qui vont s'accrocher, en fait, à l'énergie des humains qui sont en dépendance, parce qu'ils ont besoin de cette énergie pour garder ce qu'on appelle cette coquille astrale.
Ouais. Et puis, il y a tous ceux qui sont aussi, peut-être, attachés au matériel, qui ont du mal à partir, voilà. C'est ça.
Ça peut être des objets, ça peut être une addiction avec l'alcool, le plaisir, la sexualité, donc la pornographie ou autre. Donc voilà, donc tout cela, et là aussi c'est assez, il faut le savoir.
Alors, je voudrais juste une petite parenthèse, je dis à Mathieu que c'est dangereux pour lui, parce que comme il est addict à la sexualité et à la pornographie,
je confirme.
Voilà, il y a un problème pour l'après. Hein, donc tu risques d'être coincé entre deux mondes.
Il faut que j'arrête en fait.
Voilà, faut que t'arrêtes. Hein, donc parce que c'est important de le remettre un peu dans le droit chemin, vous voyez ce que je veux dire.
D'ailleurs, je dis souvent anecdotiquement dans des conférences ou autres, donc que si on savait cela, peut-être on ferait attention, parce qu'effectivement, bien sûr, on ne voit pas tout ça, on ne le sent pas. Ouais. Mais bon, ben, quand on fréquente certains milieux, je dirais, hein, je pense, hein, en tout cas, il y a autant de personnes incarnées que de personnes désincarnées qui assistent à la scène. Hein,
ça m'a toujours fait peur. Je me dis, j'imagine que quand on fait l'amour, je m'imagine, et quand on me regarde, c'est des coups. Si on commence à ça, Christine, on va avoir des problèmes. Hein.
C'est gênant.
On va rejoindre peut-être le sujet. Voilà.
Parce que là, c'est gênant, hein. C'est-à-dire que s'il y a 15 personnes autour, c'est assez incroyable. Alors, on va continuer à parler de tout cela, mais j'aimerais quand même signaler à tous ceux qui viennent d'arriver que nous parlons justement de ce ressenti médiumnique, de l'appréhension des facultés médiumniques, pardon.
Bob vous dit toute la vérité sur Rado 97.8 à Paris, 93.1 à Toulouse et sur radiofm.fr.
Christine Kahl, vous décrivez comme une personne qui a vu des dons de clairvoyance et de médiumnité se développer, donc c'est de cela dont on parle ce soir, et donc on parle de ce processus de mort.
Oui, Alors, on parlait justement des coquilles astrales. Et en fait, quand on décède, donc on reste pendant quelques temps dans l'astral. Et c'est justement cela que peuvent percevoir hein, les personnes du médium ou clairvoyantes. Ouais. Alors, juste une petite précision. Le clairvoyant, c'est quelqu'un qui va avoir des flashs et qui peut voir un petit peu dans le futur.
C'est ce qui se passe, vous ? C'est ce qui se passe ?
C'est ce qui passe aussi. Donc, sachant que je ne suis pas quand même un voyant. Le voyant est quelqu'un qui va capter des informations dans l'inconscient de la personne et qui utilise un support.
D'accord.
Des cartes, des choses comme ça. Voilà. Le clairvoyant, c'est quelqu'un qui va avoir des flashs, c'est-à-dire des images qui vont durer des fractions de secondes,
ouais.
hein, qui sont dans l'espace-temps du soi-disant futur, parce que pour nous, dans la troisième dimension, nous pensons que le temps est linéaire. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un passé, un présent, un futur.
Ouais.
En fait, donc, et d'après les ouvrages, par exemple, hein, donc divers et variés, on voit maintenant aujourd'hui que le temps est fractal. Mais ça, c'est une notion pour l'instant qui est encore un peu intellectuelle pour nous. On verra ça plus tard dans quelques années. Donc, on va dire, on perçoit des images du futur. Le médium est quelqu'un qui va capter des dimensions, c'est-à-dire des mondes parallèles.
Ouais.
Et ça aussi, ça s'explique aussi hein, donc de façon quasiment biologique. C'est grâce à la glande pinéale qui est au centre du cerveau,
ouais.
hein, qui possède, je dirais, des cristaux, ce qu'on appelle les cristaux d'apatite.
Ouais.
Hein, et tous les médiums ont des cristaux comme ça de naissance, en fait. Donc, c'est reconnu. Hein. Donc, dans cette glande qui est toute petite et qui va servir, et déjà dans les traditions très anciennes, Socrate en parlait, Platon, hein, les traditions grecques ou autres,
ouais.
On savait déjà tout cela. Et donc, le médium va capter des images grâce à ces cristaux d'apatite qui sont dans la glande pinéale, et c'est ensuite le cortex cérébral, c'est le cerveau qui va interpréter hein, les images donc, pour pouvoir décrire en fait ce qui se passe.
D'accord.
Donc en fait voilà, le médium qui souvent est clairvoyant également,
ouais.
va donc capter donc divers phénomènes.
Mmh.
Alors, on va capter différentes dimensions. On peut capter le monde des disparus, si je puis dire, avec ouais. différents échelons, parce qu'il y a plusieurs zones, je dirais, différentes vibrations, suivant un petit peu, ben, on va dire, la fréquence, le niveau de conscience de chaque âme.
Ouais.
Hein, donc, on parlait dans les traditions hein, judéo-chrétiennes ou des religions du purgatoire, hein,
ouais.
et puis du paradis. Voilà. Alors, donc le purgatoire, on pourrait considérer que c'est une zone où on accède après la mort, où on fait un peu le feedback de notre incarnation, on fait un petit peu le résumé, je dirais.
Ouais, c'est
qu'est-ce
ça,
qu'on
ouais.
a appris, qu'est-ce qu'on n'a pas appris.
On fait le bilan, quoi, c'est ça.
On fait le bilan, mm-hmm. c'est tout à fait ça.
Donc, si jamais on n'a pas été sympa, j'imagine que le purgatoire, il est un peu plus chaud, on a un peu plus chaud au cul que celui qui est plutôt sympa, quoi, c'est ça. Hein
voilà, alors, voilà. Souvent on représente ça avec le petit diable et la fourche et puis le feu.
Oui, mais il y a aussi des jolies filles, hein, parfois, quand même, hein, Christine.
Ah,
hein, parfois, le diable, il est quand même entouré de jolies filles, hein, quand même. Hein,
voilà,
donc,
et je dirais que d'un point de vue incarné, il est souvent très charmeur aussi. Hein,
ouais, ah oui, donc en fait, il nous met des jolies filles sous les yeux, puis après, ce sont des méchants garçons qui peuvent arriver, c'est ça
voilà, après, ouais. c'est une question de maîtrise.
Voilà, c'est ça, ouais, donc oh là là,
question d'habitude.
Très attention, ouais, donc j'ai bien compris. Donc le purgatoire.
Alors, voilà, alors ce qu'on nommait dans les religions le purgatoire, et on voit ça un petit peu à nos solaires aussi de façon très agréable et bien codifiée avec cette zone dans laquelle on arrive où on se nettoie un petit peu.
Ouais.
Et ensuite, donc, il y a un bilan, je dirais, avec des guides, hein, donc, qui sont des êtres qui ont un niveau donc, de conscience supérieure.
Ouais.
Alors là aussi, on y met les noms que l'on veut, mais qui vont nous aider à faire un peu le point de ce que l'on a pu apprendre dans nos leçons hein, d'incarnation, puisqu'on vient avec un plan
ouais.
d'incarnation. Qu'est-ce qu'on a à développer dans cette vie ? Des aptitudes, des habiletés, des dons, mais aussi qu'est-ce qu'on a peut-être à rectifier et à prendre, peut-être un peu plus de tolérance, un peu de pardon, hein, donc rectifier ses propres blessures, hein, la trahison, la culpabilité, la séparation, etc.
Ouais.
Donc,
Est-ce que vous, oui. je vous coupe, mais est-ce que vous, par exemple, ça vous pollue pas le fait de voir, vous avez des flashs, vous, ça vous pollue pas quand même, est-ce que vous arrivez à les maîtriser ces flashs ou ils s'imposent à vous? Par exemple, là, est-ce que, quand je vous parle, vous ressentez mon taux vibratoire, semble-t-il, c'est ce que, moi, encore une fois, j'y connais pas grand chose, hein. Ce sont tous les mm-hmm. médiums, je fais le spécialiste, là, vous voyez, mais je prends ici ou là ce que, mm-hmm. les informations que j'ai pu enregistrer, vous ressentez mon taux vibratoire, là. Est-ce que, par exemple, quand je vous parle, vous voyez des flashs, ou est-ce que vous vous dites, tiens, dans le studio, il y a quelqu'un, il y a une entité. Qu'est-ce que vous voyez ?
Alors, non, je ne vois pas parce que d'abord, je n'enclenche pas cette vision-là si on ne me le demande pas. Ça, c'est une question de respect.
Ah, d'accord. Hein,
voilà. Okay. D'abord, règle numéro un, c'est le respect. Ça s'appelle sinon un viol énergétique. Hein, ah. Si personne ne me demande pas, si la personne ne me demande pas une séance particulière,
ouais.
je ne vais pas enclencher ça parce que j'estime que c'est le respect de la personne.
Ah oui, mais non, parce que, je vous dis ça, mais juste, hein, je comprends très bien ce que vous faites parce que souvent, il y a des gens qui me disent, oh, j'ai serré la main, enfin, et boum, j'ai ouais. vu quelque chose. Vous voyez, comme dire, on voit ça dans les films souvent.
Oui,
les gens qui ont des capacités, ils serrent la main à quelqu'un et bam, ils voient.
Et ils sentent,
il y a une image qui arrive.
Alors, j'allais y venir, justement.
D'accord.
Sauf si, effectivement, on croise quelque chose qui nous surprend, hein, malgré nous, et que là, la vision s'enclenche, ou la perception s'enclenche, parce que c'est vrai que c'est pas automatique non plus, on n'appuie pas sur des boutons. Hein.
Ouais.
Donc, voilà. Et là, on est soit avec une personne, soit avec un lieu particulier où il se passe, effectivement, quelque chose, une connexion. Donc là, alors, soit après, on le dit ou on ne le dit pas. Hein, donc, suivant la réceptivité de la personne, parce qu'il faut aussi ne pas choquer.
Bien sûr.
Sinon, ça fermerait la personne plutôt qu'autre chose. Donc, oui, on peut avoir effectivement des perceptions suivant les lieux où on est, suivant les personnes avec lesquelles on est. Et puis, bon, ben voilà, après, qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors, pour répondre à votre question, est-ce que j'en étais victime? Oui. En 2000, par exemple, suite encore à un choc émotionnel, hein, on va dire chapitre 2, où je me retrouve après avec ma fille qui est bébé, donc je dirais dans une maison ancienne que je rénove, là aussi des flashs se développent, et là c'est encore un autre chapitre où là c'est la clairaudience qui s'installe. Hein, en plus d'avoir la stéréo, je dirais, enfin la vidéo, j'ai la stéréo qui s'installe en plus.
D'accord.
Donc là, la clairaudience avec une des voix intérieures ou des voix extérieures.
Ouais.
Et donc pendant, je dirais, une année, en 2000, là, vraiment, je dirais que j'avais une double vie, c'est-à-dire une vie de jour, hein, avec, comme je vous disais, expert comptable avec pas mal de responsabilités, et puis ma fille à gérer. Je m'occupais aussi d'une école à l'époque.
Ouais.
Et puis, donc, la nuit, je ne peux pas dormir. C'est-à-dire que dès que je m'endors, mon corps astral, encore une fois, se décale. Et j'ai tendance à dire, c'est comme si on se met à 10 cm de l'écran de télé, et on attrape le zapper, hein, et vous zappez les chaînes. À toute vitesse, voilà. En fait, dès que je fermais les yeux, voilà ce qui se passait. J'avais l'impression d'être vraiment en direct de tout un tas de monde. Et j'ai compris au fur et à mesure que comment me sortir de là, en fait. De façon autodidacte, je suis rentrée dans un cheminement spirituel intérieur en travaillant sur l'aspect christique, le cœur, en fait. Hein, donc, et vraiment rentrée en connexion avec l'énergie d'amour, hein, qui est l'énergie créatrice de l'univers. Mmh. Parce que pour moi, il était évident que je pouvais pas me sortir de là autrement. Donc j'ai commencé à méditer, à faire de la méditation, et puis à vraiment rentrer dans un centrage extérieur avec des valeurs. J'ai suivi un enseignement sur les valeurs, hein, donc la tolérance, l'honnêteté, donc l'habileté, mais de façon pratique, pas des choses intellectuelles.
Hein.
Tout le monde sait lire, tout le monde peut aller sur Internet, voir tout un tas de choses. Et l'objet justement de mon expérience de vie et de ce que je fais, c'est d'expérimenter et de traduire ces expériences et juste d'échanger avec les autres. Hein. Parce que pour moi, le sachant et l'écoutant, c'est un petit peu terminé. C'est plutôt en échangeant entre nous nos expériences que nous grandissons. Et je dirais que je suis un peu un prototype, je dirais, qui fait que je traduis mes expériences de vie parce que je ne parle pas d'un sujet que je n'ai pas intégré, mais intégré dans le corps et dans la vie et pas uniquement intellectuellement. Donc j'ai commencé à méditer en fait et à me connecter à l'esprit christique, à travailler avec le maître Jésus, hein, par exemple. Donc tout simplement en rentrant dans le cœur, dans des valeurs d'honnêteté, de tolérance, d'amour, eh bien j'ai augmenté ma vibration, hein, on va dire. Vous savez, pour les radiesthésistes, ils attrapent un pendule et ils mesurent avec le diagramme de Bovis.
Hein,
voilà. Et en montant mon taux vibratoire, et c'est aussi des informations que je recevais de mes guides, hein, qui me disaient de travailler ainsi, eh bien, au bout d'un moment, je n'ai plus capté, je n'ai plus été victime du tout de cela.
Mmh.
Et donc, depuis 2000, je ne suis plus en relation avec ce qu'on appelle le bas astral ou autre. On m'a juste expliqué qu'il fallait que je le sois un moment pour pouvoir justement faire ce que je fais aujourd'hui avec vous, c'est-à-dire en témoigner et en parler de façon pratique.
Christine Kahl avec moi jusqu'à 23h ce soir pour les capacités médiumniques, les facultés que vous ressentez peut-être, essayer de les appréhender au mieux, les comprendre, ça c'est très important pour pouvoir les utiliser ou pas d'ailleurs, hein, c'est à vous de voir si vous voulez ouvrir ou fermer la porte définitivement, vous voulez participer à l'émission, poser des questions, contact @bob-toutelavérité.fr, je reviens dans un instant.
Et si votre futur était déjà notre présent?
Bob vous dit toute la vérité.
Ah, cette musique, vous la reconnaissez sûrement si vous avez, comme moi, quelques années déjà au compteur, puisque dans les années 80, le cinéma hollywoodien nous offrait Ghost avec Patrick Swayze et la ravissante Demi Moore et la drôlissime Whoopi Goldberg.
Oui.
Donc, on pouvait, dans ce film, voir un être assassiné qui se décorporait et qui avait du mal à accepter son décès. C'est ce que nous essayons de comprendre ce soir avec Christine Kahl. Vos capacités médiumniques, la mort, ce qui se passe après, etc. On en parle. D'ailleurs, je profite de l'après-mort pour voir un peu ce qui va se passer. Et tout à l'heure, nous serons avec, dans les 20 minutes à peine, avec Christophe Queruau-Lamery pour parler de la réincarnation. Il l'a étudié, cette réincarnation. Il a beaucoup travaillé. On verra quel est son ressenti. Alors, Christine Kahl, on va revenir donc à vous. Vous avez des capacités médiumniques, vous les avez découvertes dans les années 90, c'est ça, si je ne m'abuse. Vous êtes experte comptable, j'imagine que vous voyez les bons ou les mauvais bilans avant tout le monde.
Alors, non, je n'utilise pas du tout ça pour mon métier. D'ailleurs, je ne le suis plus. D'ailleurs, je vais arrêter mon métier pour pouvoir me consacrer justement à tout cela.
Ouais.
Donc, voilà. Non, je ne vois pas les bilans. Mais par contre, ma secrétaire à l'époque me disait toujours, Madame Kahl, vous devriez mettre psychologue sous la plaque d'expert comptable.
Ouais.
Et c'était un peu anecdotique parce que j'ai beaucoup évolué avec ce métier et j'avais beaucoup aussi, donc, je dirais, d'écoute pour mes clients au-delà de l'entreprise.
Ouais, est-ce qu'il y a des choses que vous n'aimez pas dans vos facultés? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues, des anecdotes que vous pourriez nous raconter qui vous ont chagriné?
Alors, chagriné, oui, c'est ce dont je vous disais, de ce dont je vous parlais dans les années 2000, enfin en 2000 en particulier, où j'ai eu, donc la nuit, je ne maîtrisais pas du tout ce qui se passait. Je me retrouvais en contact avec différents mondes parallèles, y compris avec des formes, on va dire, d'extraterrestres. Donc, voilà.
Et là, des formes extraterrestres.
Oui, on va dire des personnages non humanoïdes.
D'accord.
Où là, effectivement, puisque je réponds à votre question, est-ce que ça me faisait peur? Oui. Donc, je ne savais pas ce qui se passait. Et puis surtout, je voyais bien qu'énergétiquement, il se passait donc quelque chose. Parce que là encore, on peut se dire, et je peux entendre les auditeurs dire, comment vous savez que c'est ça? Eh bien, parce qu'il y a des ressentis. Quand on est dans l'imaginaire, on voit quelque chose. Mais on a quand on a des ressentis physiques, c'est-à-dire donc vraiment un peu comme quand on sort d'un cauchemar, une transpiration, une peur, ou des choses comme ça, des ressentis même, je parlais tout à l'heure des voyages astraux, par exemple on est en train de dormir, on croit qu'on rêve, et puis tout d'un coup on a des sensations dans le corps physique, qui fait que soit on a l'impression que quelqu'un nous tient au niveau des poignets, et c'est ce qui est souvent le cas, je parlais tout à l'heure des entités qui doivent s'alimenter énergétiquement, ils vont chercher à avoir un contact avec donc les personnes, et donc ils vont toucher le corps astral de la personne pour avoir de l'énergie.
D'accord.
Voilà. Et donc la nuit, il se passait effectivement des rencontres, si je puis dire, avec d'autres mondes. Alors quand il s'agit de personnes ou d'entités comme dans Ghost, par exemple, puisque vous aviez mis la musique tout à l'heure qui évoquait ce souvenir, voilà, c'est le personnage, donc s'aperçoit qu'il est décédé, et par amour pour des mimours, pour dans le film, il n'a pas envie de quitter sa vie terrestre, et on le comprend tout à fait. Donc pendant un temps, il reste encore là. Et c'est toute l'histoire qui fait qu'il va la sauver, etc. Il y a des âmes comme ça, encore une fois, qui donc comprennent pas tout à fait qu'ils sont décédés, qui vont rester un temps, et puis ensuite, ils vont prendre leur cheminement. Donc, ce sont des âmes qui ne sont pas dangereuses, dans le sens où elles comprennent pas tout à fait, elles règlent ce qu'elles ont à régler dans les 48 ou dans les 72 heures, et puis après, donc, le cheminement normal se fait. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les entités donc plus accrochées, ce dont on parlait tout à l'heure, qui vont s'accrocher à une énergie, où là, c'est plus dangereux pour nous, personne incarnée, parce qu'on va perdre de l'énergie au contact de ces mondes-là. Et donc, ça se passe souvent la nuit. Donc, pourquoi? Parce que l'âme, les perceptions extrasensorielles sont, disons, plus favorables la nuit que le jour, puisque le jour, on est tout simplement occupé par toutes nos préoccupations professionnelles, sociales, etc.
Est-ce que tout le monde peut avoir ces capacités?
Je ne pense pas que tout le monde peut avoir ses capacités. Mais il faut avoir donc une certaine réceptivité. Donc, il faut être assez intuitif, puisque là, on va faire appel au cerveau droit. C'est-à-dire toutes les capacités donc de perception, d'intuition, d'imagination, imaginaire, créativité, c'est le cerveau droit. Donc quelqu'un qui effectivement va être sensible, subtil, peut effectivement développer cela. Après, je dirais psychologiquement c'est possible. Maintenant après, d'un point de vue, je dirais plan d'incarnation, il y a des personnes qui viennent développer ça pour en faire quelque chose ou pas, et puis il y a des personnes qui développent autre chose. Donc voilà, je dirais pas que tout le monde est assujetti à cela, vaudrait mieux pas d'ailleurs, mais que les personnes qui vont développer ça dans l'incarnation, vont le développer d'une façon ou d'une autre, et puis voilà, il faut pas en avoir peur. Maintenant, ça peut être effectivement un peu inquiétant au début, hein, parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça peut déstabiliser psychiquement et psychologiquement.
Mmh. Est-ce que si on ne maîtrise pas ses facultés, c'est peut-être ça peut être dangereux?
Oui, ça peut être dangereux, oui.
Et pour quelle raison?
J'ai eu rencontré, donc je me rappelle dans les années 96-97, une dame, une petite dame qui avait perdu ses enfants, hein, donc dans un accident de sous-marin. Elle avait perdu ses deux fils, hein, et elle communiquait avec eux. C'était venu spontanément pour elle, mais elle était ouverte aussi à d'autres entités qui, donc à travers l'écriture automatique, hein, donc eh bien écrivaient à la fois des belles choses, hein, me faisaient faire des mandalas, des choses comme ça, et j'ai vu moi-même ces dessins, hein, j'ai lu ces notes, et donc mais à la fois ça pouvait être insultant, et donc elle n'arrivait pas à faire la différence entre les personnes qu'elle captait quand elle était avec ses fils, d'accord, hein, mais quand elle est avec d'autres entités qui vont se servir d'elle, et là on est dans le spiritisme, donc là danger.
Hein,
parce que là les entités vont se servir, hein, de la personne, et si encore une fois il n'y a pas un ancrage, donc avec une certaine valeur, je dirais, dans l'incarnation, sérénité, paix intérieure, équilibre psychologique, là ça peut être donc effectivement donc, limite schizophrénie. Hein.
Ah oui. Oui, parce que. C'est très difficile quand même de savoir si on est dans la médiumnité, dans la schizophrénie, si le cerveau crée pas des choses.
Oui. Oui, il faut se connaître. C'est pour ça que je disais, moi, j'ai passé 15 ans à travailler sur moi, parce qu'encore une fois, hein, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on voyage aussi après, hein, dans d'autres dimensions, quand on fait des voyages astro, etc. La porte, c'est le cœur. Hein, et c'est pas donc comme on pourrait le penser, ni en fumant des herbes ou autre. Oui, ok, on peut. Mais là, on est dans l'imaginaire et on part dans l'astral. C'est-à-dire qu'on est en relation avec des entités. Et comme on disait tout à l'heure anecdotiquement, hein, l'ombre n'est jamais, hein, donc un petit diable avec la queue fourchue. C'est très subtil. Vous savez, dans le spiritisme, hein, donc vous savez, les séances avec les tables qui tournent ou autre, il faut jamais toucher à ça parce qu'on va avoir 80% de vérité, ouais, et 20% d'anecdotes. Vous appelez l'esprit de Napoléon, vous allez avoir 80% de vérité sur la vie de Napoléon,
ouais,
mais dans les 20%, hein, on va vous manipuler. Donc il faut être très prudent là-dessus. Et la seule, je dirais, la seule garantie, hein, donc de ne pas être en relation avec ce bas astral, c'est d'augmenter sa propre vibration. Alors après, il y a des outils pour ça, hein, en méditation, il y a un certain art de vivre, un certain équilibre, un état d'être, mais aussi travailler sur le corps de lumière ou des choses comme ça, il y a des outils pour ça, pour monter sa vibration. Et là, encore une fois, je reprends ce dont je parlais tout à l'heure, c'est l'histoire de la fréquence.
Ouais. Hein,
si je veux chercher votre radio à vous, je ne vais pas en chercher une autre, hein, je me mets sur la bonne fréquence.
Ouais.
Voilà. Et si donc je suis avec un état intérieur qui me laisse donc une certaine harmonie intérieure, donc et un certain équilibre, je ne vais pas capter ce qui est inférieur, sauf si j'ai envie d'aller regarder ça. Hein, c'est simple. Ça marche dans un sens, mais pas forcément dans les deux. Hein, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, c'est-à-dire que si j'ai un niveau supérieur, je peux redescendre, mais si j'ai un niveau inférieur, je peux pas monter. Hein.
Vous le savez, tous les soirs ici, j'expose et vous disposez. Témoignages, révélations, experts et invités. Christine Kahl est avec moi jusqu'à 23h.
L'application POV vous dit toute la vérité et téléchargeable gratuitement sur l'App Store et Android.
À 23h, nous aurons Christophe Curiot-Laméré pour parler de la réincarnation. Avant cela, Christine Kahl va me permettre d'arriver jusqu'à cette heure fatidique. Dites-moi, Christine, moi, il y a un truc que je trouve assez incroyable, c'est que souvent, quand on fait des séances de spiritisme, les uns les autres, on l'a tous fait. Il faut pas le faire quand on n'est pas accompagné, qu'on n'est pas expert. C'est ce que me disent tous les médiums. Mais de nombreux adultes le font, etc. Et on a toujours la sensation de rentrer en contact avec l'esprit de quelqu'un de célèbre. Il y a toujours Louis XIV, Napoléon, Elvis Presley, etc. Et à chaque fois, je veux dire, c'est quand même hallucinant. Ça peut pas être Robert Dugenoux. Vous voyez ce qu'il y a là, qui s'est cassé la gueule dans ses escaliers, qui est mort sur le coup.
Charles de Gaulle une fois.
Charles de Gaulle, carrément, d'accord. Ouais.
C'est vrai.
Moi, j'ai eu Monsieur Champs-Élysées.
Mais j'étais dans un lycée qui s'appelait Charles de Gaulle. On a fait du spiritisme et c'était Charles de Gaulle qui est venu.
Et il a dit, je vous ai compris. Alors, oui, dites-moi pourquoi, Christine.
Alors, tout simplement, parce que ça s'explique tout simplement, on va capter une entité lambda, je dirais, qui, elle, de par, donc, je dirais, le monde dans lequel elle évolue, hein, elle est en contact avec ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Hein, c'est-à-dire qu'un réservoir d'informations ou dans lequel tout est enregistré, hein, donc, et donc elle peut capter toutes les informations qu'elle souhaite.
Ouais.
Et ça ne veut pas dire qu'on est avec justement Charles de Gaulle ou Louis XIV. Il y a peu de chances quand même, il faut être réaliste.
Ben oui, donc alors est-ce que c'est, alors là quand on a ça, est-ce que ça peut être un esprit farceur
qui... Farceur, oui. Oui, oui.
C'est Patrick Sébastien déguisé en fait.
Patrick, ouais, c'est le grand carnaval.
Mais oui, mais il n'est pas encore décédé, donc.
Ah bah ouais. Mais et dites-moi, paix à son âme d'ailleurs.
Mais
non, mais on ne sait jamais. Si un jour il y arrive, il vaut mieux que voilà.
Ah oui.
Quoi qu'il en soit, si jamais on a cet esprit farceur là, est-ce que d'ailleurs quand on dit farceur, est-ce qu'il peut être dangereux cet esprit ou pas?
Et oui, en fait, il faut pas toucher à cela. Hein. Donc, parce que oui, on ne sait pas avec quoi on est en contact. Ouais. Et du moment qu'on est en contact, après, il va falloir pouvoir fermer la porte.
D'accord.
Hein. Ça veut dire que la nuit, après, on va mal dormir, on va être pompé en énergie. Le matin, on se réveille, on a l'impression de rentrer de boîte de nuit. Ouais. On ne sait pas ce qui se passe. Il y a ce qu'on appelle les fuites énergétiques. Il va falloir aller voir un thérapeute pour se faire harmoniser. Voilà, tout ça, on ouvre la porte à des choses dont on n'a vraiment pas besoin dans l'incarnation. On a plein de choses à faire passionnantes dans notre vie, ouais, sans aller chercher ça. Et je dirais que les jeunes, en plus, donc qui ont tendance un petit peu à fumer, à chercher un contact avec des parties d'eux-mêmes, hein, parce que ces jeunes qui arrivent aujourd'hui ont des aptitudes, justement, sur ces phénomènes-là, ouais, et ils ne trouvent pas écho donc dans ce qu'ils peuvent dire à leurs parents ou autres, hein, parce qu'ils ont plein de choses passionnantes pour en écouter certains, mais en plus, donc, ils vont chercher des connexions. Or, ils vont s'alimenter, ils vont aller chercher quelque chose de supérieur, mais ils se retrouvent face à cette zone qui va les pomper et qui va les utiliser. Hein, c'est pour ça qu'on a tous ces rêves parties aussi, vous savez, la musique binaire, hein, ces jeunes qui se droguent ou qui boivent jusqu'au coma éthylique, ouais, c'est le signe aussi de cette société qui ils cherchent une connexion à d'autres parties de soi-même, hein, donc, mais c'est pas du tout la voie. C'est pas du tout la voie, c'est pas par là qu'il faut s'y prendre.
Mmh.
Donc voilà. Alors juste, si je peux raconter une anecdote, vous parlez du processus de réincarnation, si je peux me permettre. Ouais. Pendant ma grossesse avec ma fille, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à connecter l'âme et les personnes. Ouais. C'est que pendant ma grossesse, en fait, ma fille est rentrée en contact avec moi. Et que, j'ose dire que presque le soir où on l'a fait, tout mon programme des années qui ont suivi m'est apparu en quelques secondes. Voilà. Et donc le processus d'incarnation est quasiment le même d'ailleurs que quand on se désincarne, c'est-à-dire quand on décède. Hein, ouais. Il y a donc un rapprochement de l'âme par rapport aux parents, par rapport à la famille, par rapport à ce dont on va avoir besoin comme contexte psychologique, environnemental, etc. pour pouvoir apprendre ses leçons. Et donc ce processus est passionnant aussi parce que effectivement donc l'âme vient pour choisir un contexte adéquat pour apprendre ses leçons et puis ensuite donc vit sa vie d'incarnation et donc ensuite recontinuera son chemin sous une autre forme puisqu'on disait tout à l'heure que la conscience continue au-delà de l'être humain corporel.
Alors on va, je le disais, hein, du côté de 23h parler de réincarnation. Vous pensez qu'on se réincarne, vous en êtes certaine vous ou pas?
Écoutez, j'ai tellement vu d'épisodes, donc tels que je vous parlais, et puis je peux vous en citer d'autres. Hein. Oui, aujourd'hui, je crois qu'on se réincarne. Pour moi, c'est une évidence, parce qu'autrefois, ça n'était pas du tout. Mais par exemple, une autre anecdote. Hein, en 97, j'achète un appartement sur Toulouse, et ouais, j'arrive dans cet appartement. J'avais rencontré les autres propriétaires de la petite résidence, ouais, et il y a un monsieur, donc qui à l'époque était atteint du SIDA. Quand j'aménage en fait dans cet appartement, la première nuit où je dors dans mon appartement, en fait, ouais, m'apparaît le propriétaire de l'appartement du dessus en coquille astrale, comme je vous expliquais. Il est venu dans ma chambre, en fait, juste, donc c'est vrai que j'ai fait un bond, un sursaut. Je ne savais pas qu'il était décédé. Mmh. Hein, donc voilà, juste cette tête m'est apparue comme pour me saluer, me dire au revoir. Le lendemain matin, quand j'ai rencontré, on va dire, la concierge, je lui ai dit, mais monsieur un tel est décédé. Elle me dit, oui, comment vous le savez? Et donc, je n'ai pas répondu. Hein, mais donc, voilà. Des anecdotes comme cela, je peux vous en raconter énormément.
Ouais.
Donc, ce qui fait, je ne peux pas vous dire que ça n'existe pas. Je veux dire, cette personne est décédée la veille. J'ai rencontré cette personne une fois. Je le vois dans une, non pas son corps physique, puisqu'il est au cimetière.
Ouais.
Hein, je le vois dans ma chambre. Et on peut dire, oui, vous avez pensé à lui. Et puis, voilà, c'est comme ça. Oui, mais vous savez, entre penser et voir, Hein, donc quelqu'un, encore une fois, dans une autre dimension avec des émotions, c'est quand même différent. Et encore une fois, il y a plein de gens que je connais pas, que je peux décrire, alors que j'ai jamais croisé ces personnes. Hein, donc voilà, il se passe bien quelque chose.
Tout à l'heure, vous saviez, on parlait de ce chemin de mort, finalement, une fois qu'on décède et qu'on se retrouve dans entre deux mondes, c'est-à-dire que vous appelez ça le purgatoire. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va s'élever ou est-ce qu'on va pas s'élever?
Le purgatoire, oui, c'est le mot que vous utilisez à la religion catholique. Hein. Moi, personnellement, j'appelle ça les hommes de l'astral. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'on s'élève? Eh bien, comme je l'ai expliqué, c'est qu'est-ce qu'on a fait dans notre vie, qu'est-ce qu'on a fait dans les précédentes. Hein. C'est-à-dire, tout simplement, c'est une vibration de cœur, je dirais. Hein. Plus la personne va être dans des valeurs de tolérance, de service, d'amour, et plus on accède à une vibration, tout simplement, qui va être plus lumineuse, qui se traduit par un champ électromagnétique, avec des ondes plus lumineuses. Et donc, on accède comme ça à un plan de conscience supérieur. Je ferai référence, là, encore une fois, pour que les personnes puissent toucher cela, dans nos solars. Hein, donc, la mère d'André Louis, on la voit apparaître avec... ils ont mis, par exemple, dans ses cheveux des petites des choses scintillantes, etc. On comprend dans le film qu'elle est dans une zone, j'aime pas dire supérieure, mais plus lumineuse.
Ouais. Hein,
donc, voilà. Donc, en fait, pourquoi? Parce qu'elle atteint, on va dire, une certaine sagesse. Hein, donc voilà. Donc plus on va être dans une certaine sagesse de vie et incarné, hein, c'est pas intellectuel, on est bien d'accord. Hein, faut que ce soit incarné. Et bien à ce moment-là, on va accéder à des zones, je dirais, donc plus lumineuses, voilà, et où là on va aussi à un moment donné pouvoir aider les autres.
Mmh. Est-ce que aujourd'hui la situation dans laquelle vous êtes, elle vous convient?
Oui, et c'est là que justement on accède à son plan de mission, c'est-à-dire que quand on est dans son plan d'incarnation où on est censé faire ce qu'on est venu faire avec ses dons, quels qu'ils soient, mais je dirais c'est la même chose pour un musicien ou pour quelqu'un qui peint, hein, ou peut-être pour vous, Bob, qui faites ce que vous faites, hein, certainement d'ailleurs. C'est-à-dire que quand on est dans ce qu'on est venu faire, on n'a pas l'impression de travailler. C'est pas un travail. C'est une énergie qui nous porte et qui fait qu'on est bien là où on est et que justement ce qui nous nourrit, c'est de pouvoir aider aussi les autres avec notre propre expérience. Voilà. Et là, on se trouve épanoui parce qu'on se dit, ok, je sens, non pas je sais, mais je sens que je suis peut-être à ma place, en pouvant contribuer à grandir moi-même avec les autres et à peut-être faire grandir aussi les autres dans cette conscience plus élevée, plus lumineuse, de qui nous sommes vraiment. Je ne pense pas que nous soyons que des humains qui sont venus pour profiter que des plaisirs de la vie et travailler. Il y a autre chose à mon sens là derrière, mais peut-être on en parlera une prochaine fois. Hein, donc voilà. Et donc, quand on est dans ce vecteur-là, l'énergie nous porte. Personnellement, donc il faut avoir aussi la foi, hein, parce que moi j'abandonne de mon métier pour partir là-dedans. J'ai une espèce de confiance intérieure, ce que j'appellerais un peu confiance dans le plan d'incarnation, dans l'âme, et ça s'appelle la foi aussi. Et puis après, la vie, on va voir ce que la vie réserve.
Est-ce que vous pensez qu'il y a certaines entités qui peuvent polluer nos vies, en fait?
Oui, bien sûr.
Ah ouais? Alors, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des entités, des personnes qui sont déjà décédées, qui sont de l'autre côté entre deux mondes. Alors, celles qui polluent, sont-elles encore dans ce que vous appelez le purgatoire, entre deux mondes? Ou est-ce qu'elles sont déjà passées de l'autre côté? Elles peuvent avoir une influence sur nos vies.
Alors, elles sont passées de l'autre côté puisqu'elles sont décédées. Elles sont dans cette fameuse zone intermédiaire, dit purgatoire, entre guillemets, mais dans laquelle, effectivement, elles sont encore raccrochées au monde humain, soit à la famille, soit, donc, comme on le disait tout à l'heure, donc, à des addictions matérielles, donc, ou autres, Et comme je l'expliquais, elles vont polluer dans le sens où leur énergie va venir sur nous, donc dans le sens de convoiter quelque chose, de nous pousser parfois, et on parlait des jeunes tout à l'heure, pousser donc à boire, à se droguer ou à la sexualité. Hein, donc voilà, il peut y avoir effectivement ces phénomènes, oui, bien sûr.
Bon, sur les trois, il y en a un que je préfère, hein, je vous le dis. Hein, donc voilà,
c'est vite vu.
La drogue, boire et la sexualité. Dites-moi, alors, mais elles peuvent nous mener à notre perte, parce que quand vous dites qu'on peut se droguer, etc., c'est-à-dire qu'il peut y avoir une influence, une incidence colossale et peut-être presque irrémédiable. Elles peuvent aller jusqu'ici, ces entités?
Elles peuvent influencer, effectivement, parce qu'elles, pour pouvoir continuer à survivre en coquille astrale, comme je l'ai expliqué, elles ont besoin d'énergie. Hein, donc, elles vont pousser la personne, donc effectivement, à ce genre de choses. J'essaie de chercher, donc, en référence à...
Est-ce qu'elles puisent leur énergie chez un vivant, ces entités?
Oui. Oui, dans ce qu'on appelle les émanations de la personne. C'est-à-dire, quand on boit, par exemple, on a des émanations. Quand on fait l'amour, on a des émanations aussi. Ouais. Hein, donc, mais qu'est-ce qu'on émane? Eh bien, encore une fois, ce avec quoi on est en résonance intérieure.
D'accord. Hein,
donc, voilà. Donc, je dirais, dans, par exemple, des boîtes de nuit ou des lieux échangistes ou autres, où il y a une, par exemple, on boit, on est dans des
pépères. Dans les lupanards, quoi, c'est ce que vous voulez dire.
Voilà. En fait, là, encore une fois, il faut savoir qu'effectivement, il y a un certain nombre de personnes incarnées, mais il y a certainement aussi, si on enclenche nos visions de médium,
Finalement, vous êtes en train de me dire que certaines entités sont plutôt voyeuses, perverses et elles s'amusent un peu.
Oui, elles vont se nourrir de cela parce qu'elles-mêmes n'ont pas résolu ça.
Donc
elles sont encore attachées à cela. Ouais. Voilà, les gens ne savent pas cela. Hein, donc, heureusement d'ailleurs, parce que croyez-moi, ça ferait peur. Hein. Ça ferait peur.
Bon, mais je sais où on retrouvera Mathieu quand il sera décédé. J'ai quelques adresses, je sais où il sera. En tout cas, on va être obligé de se quitter, Christine Kahl. J'ai été ravi, bien sûr, d'être avec vous. On a bien compris tout votre travail. Cet entretien, comme tous les autres d'ailleurs, sera réécoutable du côté de minuit et demi en podcast sur iTunes ou encore sur l'appli mobile Bob vous dit toute la vérité, là aussi gratuite, ou encore sur bob-toutelavérité.fr. Merci Christine.
Oui, avec plaisir.
Au revoir.
Retrouvez Bob sur les réseaux sociaux. En podcast sur radofm.fr et en best-of le dimanche sur Ado. 21h minuit.